On va parler du rapport et de l'influence de la philosophie dans les révolutions. Je vais éclairer seulement quelques concepts. On ne peut pas prendre tous les concepts, c'est trop gigantesque comme sujet d'étude, les révolutions. Moi, je me suis concentrée sur la question de l'individu, sur la place de l'individu dans la cité pour ces deux révolutions principales, l'américaine et la française. Je ne parlerai pas des autres révolutions. Dans le tome de la Pléiade sur l'histoire universelle, il y a tout un chapitre sur les différentes révolutions du XVIIIe. Donc vous pouvez vous y référer si vous avez envie. Donc, dans ces deux révolutions, française et américaine, ont eu le besoin d'affirmer, de déclarer les droits de l'homme. Donc, même si en novembre ou décembre, je ne sais plus, il y aura des conférences avec l'Université populaire sur les droits de l'homme, on en parlera quand même aujourd'hui pour savoir quels étaient ces droits de l'homme. Surtout qu'en France, on complique le problème dans nos différentes déclarations successives. À partir de 1789, on dit « droits de l'homme et du citoyen ». Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et le citoyen ? Et dans ce cas-là, on va essayer d'éclairer cette différence. Et on s'interrogera sur le rapport de l'individu à l'État, à la politique, à partir du moment où, avec les révolutions, en tout cas françaises, l'individu n'est plus le sujet d'une royauté, d'une monarchie absolue, mais est le sujet de la loi qu'il crée lui-même. Donc il devient actif, il devient l'auteur de la loi. Donc on interrogera sa place au sein de ce corps politique nouveau créé à l'occasion des révolutions. Donc, en gros, il va y avoir trois parties. Dans un premier temps, je vais essayer d'éclairer ce que c'était que ces droits naturels sur lesquels les déclarations sont appuyées. Quand je dis les déclarations, c'est donc les déclarations d'indépendance pour l'Amérique, et des différents États, dont la Virginie, donc avant l'indépendance, et les déclarations françaises. Donc les droits naturels, ensuite on s'interrogera sur la souveraineté. La souveraineté, c'est donc ce pouvoir absolu qui maintenant n'est plus aux mains d'un tyran, mais du peuple. Donc qu'est-ce que cette souveraineté? Et on interrogera cette abstraction de l'homme, de cet individu qui a des droits de l'homme et du citoyen. Donc cette abstraction, puis de savoir, on dit droit de l'homme, pas droit de la femme. Donc on essaiera de voir ce que la réflexion sur la différence des sexes introduit comme écart, comme distance sur ces déclarations, sur ces pensées des révolutions. Donc le premier texte que je vous ai photocopié, c'est un texte de Locke dans le second traité. J'ai fait une faute. Second traité du gouvernement civil, donc à la fin du XVIIe siècle, Locke, penseur anglais, a énormément influencé Jefferson lorsqu'il a rédigé la déclaration d'indépendance. Il avait aussi influencé la constitution de l'État de Virginie. Et ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, cette révolution américaine a eu une influence sur la révolution française. Il y a beaucoup de différences entre les deux révolutions, mais il y a évidemment des liens importants. Les révolutionnaires américains étaient baignés par les lumières européennes et les révolutionnaires américains qui ont influencé, bien sûr, la révolution française. Donc, on verra des divergences tout à l'heure, mais il y a quand même ce fond commun. Les droits naturels, donc, c'est un ensemble des règles considérées comme appartenant à l'homme du fait de sa nature, du fait de son essence. Ces penseurs-là définissent l'homme, un homme doté de droits. L'homme est capable, par l'usage de sa raison, tout homme, même le plus servile, par sa raison, il est capable de découvrir, pour peu qu'il prenne le temps de réfléchir sur lui-même, de découvrir les droits dont il est doté. Ces droits fondamentaux qui lui permettent de mener librement sa vie et de rechercher le bonheur. Donc, les encyclopédistes, dont D'Alembert, écrivent donc au sujet de ce que c'est que la loi naturelle. Donc, une loi que Dieu impose à tous les hommes et qu'ils peuvent découvrir par les lumières de la raison, en considérant attentivement leur nature et leur état. Et cette liberté naturelle, toujours dans un article de D'Alembert, droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leur personne, de leurs biens, de la manière qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur. Donc on a ces thèmes liberté naturelle qui se fait également dans l'égalité et de cette recherche du bonheur. Donc, c'est vrai que c'est quand on parle des droits naturels sur lesquels s'appuient les déclarations, on parle de ça. Là, je peux citer rapidement donc, la déclaration d'indépendance, écrite le 4 juillet 1776. « Nous tenons pour évidentes, pour elles-mêmes, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, la recherche du bonheur. » On retrouve la même chose dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, premier article. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc là, on voit directement, pour le coup, l'influence de cette philosophie des droits de l'homme et qui est universelle. Et ça, c'est vraiment la Révolution française qui déclare que ces droits ont une portée universelle, voilà, pour tous, en tout temps, en tout lieu. Ça, ce qui était nouveau. Donc là, voilà, c'était pour éclairer ces droits. Donc c'est sur ces droits que se fonde le nouveau pouvoir politique que les hommes contractent librement à travers des pactes, des conventions, à travers le contrat social, pour former donc ce nouveau corps politique. C'est appuyé sur ces droits dont on vient de parler. La souveraineté politique, c'est le pouvoir de se déterminer absolument par soi-même. Donc la souveraineté, cette souveraineté-là, ça s'oppose, bien sûr, au souverain, au tyran, au roi qui recevait le pouvoir de Dieu. Donc là, avec les révolutions, les hommes, les penseurs en philosophie, essayent donc de trouver l'origine, de penser l'origine du corps politique et de l'association des citoyens. Donc il s'agit donc pour les peuples de se libérer du pouvoir tyrannique qui viole ses droits fondamentaux. Le droit à la résistance à l'oppression, qui était cité dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui est une pensée de Locke, est fondamental et utilisé donc pour se libérer des tyrannies politiques et fonder un pouvoir où le peuple est souverain. Donc effectivement, donc les déclarations se font au nom du peuple. On va voir ce que c'est que le peuple et de sa liberté à fonder une association politique donc sur les bases des droits naturels, parmi lesquels donc le droit à la résistance. Avec les théories du contrat, il y a donc dans les théories du contrat, donc les hommes contractent librement pour se choisir la loi et ne plus être sujet d'une loi imposée par une monarchie de droit divin. On peut prendre, je vous ai donné des extraits, celle de Locke et de celle de Rousseau. On verra les différences. Donc il y a une laïcisation du fondement du droit. C'est plus un droit divin. L'origine de ce pouvoir n'est ni divine ni naturel, c'est plus une autorité naturelle. L'autorité typique naturelle, c'est l'autorité du père pour ces philosophes-là, qui est une autorité légitime et naturelle fondée sur la filiation sur ses enfants. Donc là, on redéfinit, ces penseurs-là redéfinissent ce que c'est que l'autorité. Donc, dans les différentes théories du contrat, la démocratie n'est pas systématique, mais je vous ai passé un texte de Diderot, un texte de la fin de sa vie, où là, clairement il en appelle à la démocratie, ce qui n'est pas systématique dans les théories du contrat. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les hommes renoncent à leur liberté naturelle ? Liberté, donc, on l'a vu dans les droits naturels, de vaquer à leurs occupations, de faire absolument tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils peuvent. sans soumettre aucune autorité. Donc pourquoi il renonce à cette liberté naturelle absolue pour se soumettre à une loi qu'il crée librement? Donc le grand souci que l'on trouve dans les penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est le souci de préserver leur vie. Hobbes, un théoricien du contrat, et Locke écrivent pendant ou juste après les révolutions qui ont déchiré l'Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Donc ce besoin de préserver sa vie, qui est, au fond, qui est un des droits naturels, on le retrouve. Donc la liberté naturelle des hommes, même si les hommes, dans ces droits-là, sont censés être des créatures raisonnables, les passions et l'intérêt personnel que l'on va poursuivre à la recherche de son bonheur vont créer des situations de concurrence. On va vouloir s'approprier l'opin de son voisin et ça va devenir, on ne va plus pouvoir exercer notre liberté absolue tellement on sera gêné par celle des autres et la crainte de soi-même mourir du fait de cette concurrence-là. Donc là, c'était plutôt la théorie de Hobbes. Donc, ils se rassemblent, donc les théoriciens du contrat imaginent, c'est de la fiction, mais qui veut démontrer le fondement du pouvoir, imaginent que les hommes se rassemblent, se soumettent librement, ils renoncent à leur liberté naturelle, à leur droit de faire tout ce qui leur plaisait, pour accepter des contraintes et une nouvelle autorité, mais dont ils sont l'origine. Et c'est ici, c'est dans cette origine du pouvoir qui n'est plus d'un droit divin, mais que l'on a soi-même créé, donc qui fonde ces contrats, ce contrat social, l'entrée en société. On sort de l'état de nature avec notre liberté naturelle pour entrer en société. Et là, on trouve des différences dans les philosophies qui se reflètent dans les politiques, dans les révolutions américaines et françaises. Si Locke a fortement influencé la révolution américaine, nous, la révolution française s'attache plus à une pensée, à la pensée de Rousseau. Si vous allez au musée Carnavalet, c'est le musée de l'histoire de la ville de Paris. Certains y sont déjà allés ou... Donc vous pouvez y aller. Donc toute l'iconographie qu'on a dans nos livres d'histoire sur la Révolution, elle vient de ce musée-là, qui est un musée magnifique et gratuit. Donc allez-y et vous verrez donc effectivement Rousseau. On voit Rousseau et c'est des extraits du contrat social qui sont représentés dans les tableaux révolutionnaires. Donc Rousseau et Voltaire ont eu une forte influence. Là, je vais prendre juste Rousseau. Quand je dis qu'ils ont eu une influence sur les révolutionnaires, tous ces philosophes-là, ils étaient cités par les députés de l'Assemblée constitutionnelle en 89. Tout au long, ils étaient cités et triturés. Évidemment, les députés s'en servaient à des fins politiques, ils manipulaient leurs pensées. Donc on dit influence de Rousseau, oui, mais néanmoins, ça a été une des figures de proue. Et on va voir donc la différence entre Rousseau et Locke. Parce que la finalité de la création de ce corps politique est différente dans ces deux philosophies, et ça révèle des conceptions différentes de la politique. Et ça illustre, oui, donc je pense, la divergence entre le système anglo-saxon et français. Donc pour Locke... Donc là, c'est au paragraphe 124. Je crois que je vous l'ai donné. Oui, je vous l'ai donné. La principale fin que se proposent les hommes lorsqu'ils s'unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leur propriété pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature. Les propriétés, pour Locke, c'est pas seulement le capital que l'on s'est constitué, c'est la propriété, ce qui nous est propre, notre propre personne, notre vie et nos intérêts. Donc pour Locke, l'entrée dans la société, on quitte l'état naturel, mais l'entrée en société, on y adhère en vue de préserver donc les droits naturels, de préserver sa vie, ses propriétés, la recherche de son bonheur et de ses intérêts. Rousseau, il a une vision totalement différente. Dans l'entrée dans le contrat social, il y a vraiment la création d'un nouvel homme qui n'a plus seulement pour fin son bonheur personnel, individuel comme chez Locke, mais le bonheur commun. Donc la liberté civile, la liberté qu'on acquiert une fois qu'on est entré dans le contrat social, qu'on a quitté l'état de nature et notre liberté absolue. Cette liberté-là conventionnelle, ce n'est pas du tout de la même nature chez Rousseau que la liberté naturelle, celle où on pouvait faire tout ce qu'on voulait du moment qu'on le pouvait. Parce que dans le contrat social, on s'aliène totalement. Pour Rousseau, la fiction, c'est on entre dans le contrat social, on renonce à tous nos droits. Donc tous les individus se retrouvent égaux dans cette renonciation totale à leurs droits, à leur liberté. Et de là naît la volonté générale. C'est plus donc la volonté de chacun des particuliers de vaquer à ses occupations, c'est la volonté générale. Et c'est ça qui constitue le peuple. Quand les déclarations françaises se font au nom du peuple, c'est ça. C'est l'assemblée, c'est le corps qui s'est réuni, qui est constitué de la multitude des individus et qui forme désormais une unité et qui sont dotés de cette volonté générale. Et cette volonté générale, Rousseau fait bien la distinction, c'est pas la volonté de tous. La volonté de tous, ce serait la majorité, plus un, ouais. Par exemple, ce serait chaque volonté individuelle qui choisirait une politique. La volonté générale, donc, c'est pas cette somme-là des volontés individuelles. C'est pas qu'une coalition d'intérêts. Elle ne peut vouloir que le bien commun. Hein. Donc, une fois qu'on a renoncé à notre liberté particulière individuelle, les hommes, pour Rousseau, s'ils réfléchissent, s'ils prennent le temps de délibérer, ils ne peuvent que vouloir le bien commun. Certes, ils peuvent se tromper. Ça, Rousseau, il n'est pas naïf à ce point-là. Mais pour lui, s'ils se trompent, s'ils finalement ne votent pas, ne choisissent pas le bien commun, c'est parce qu'ils n'auront pas fait exprès, ce ne sera pas par une méchanceté naturelle, ce ne sera pas parce qu'ils auront suivi leurs petits intérêts personnels, c'est parce qu'ils auront mal réfléchi. Il y a cette foi-là, à partir du moment où on se constitue en tant que peuple, où on parle au nom de la volonté générale, on veut le bien commun et c'est cette volonté-là qui va animer nos décisions politiques. Ce ne sera plus la recherche de notre intérêt personnel, de notre poursuite du bonheur personnel, comme chez Locke. Là, je cite un extrait du contrat social, je crois que je vous l'ai donné. Mieux l'État est constitué, plus les affaires publiques l'emportent sur les privées dans l'esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d'affaires privées parce que la somme du bonheur commun, fournissant une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées. Sous un mauvais gouvernement, nul n'aime à faire un pas pour s'y rendre, parce que nul ne se prend d'intérêt à ce qui s'y fait, parce qu'on prévoit que la volonté générale ne dominera pas, et qu'enfin, les soins domestiques absorbent tout. Ces textes-là sont vraiment d'une grande actualité. Est-ce qu'on veut participer est-ce qu'on veut participer à la démocratie d'une façon active ou est-ce qu'on laisse le soin à nos représentants de décider du bien commun ? Est-ce qu'ils en sont capables ? Ça, je vais l'aborder juste après. Donc là, à travers Locke, qui a beaucoup plus influencé donc, la Révolution américaine, à travers Rousseau, on trouve ici une opposition philosophique qui traverse cet âge des révolutions démocratiques. Il y avait un poncif au XVIIIe siècle qui était celui d'opposer la liberté antique et la liberté moderne. La liberté antique, c'était la liberté de participer au pouvoir en tant que citoyen, librement. Alors que la liberté moderne, c'est la liberté donc individuelle, la jouissance des biens apportés par le développement du commerce et de l'industrie. Donc on trouve cette opposition qui est dès le XVIIe siècle avec Locke et après au XVIIIe avec Rousseau. À savoir quelle liberté l'on choisit, moderne ou antique. Avec la liberté antique, évidemment, les citoyens athéniens, parce qu'ils avaient des esclaves, ils pouvaient se permettre d'aller et participer aux assemblées et à la politique. Une philosophe contemporaine, enfin du XXe siècle, Hannah Arendt, a fait ce retour vers les Grecs, pas un retour aux Grecs. Elle n'a pas dit, allez, on fait comme les Grecs, on prend des esclaves et on participe à la politique. Mais il y a eu cette aspiration à trouver que la liberté, c'est celle d'exercer sa citoyenneté activement, et pas seulement la liberté de jouir de ses biens privés. Donc ces oppositions-là, liberté antique, participation à la citoyenneté, participation directe, ou liberté moderne, jouissance personnelle, dans la sphère familiale, dans la sphère privée, on la retrouve dans cette fin du XVIIIe siècle. Et ça pose le problème de la représentation donc par nos représentants politiques. Une fois qu'on a dit qu'on avait fait un pacte, qu'on s'était soumis librement, qu'on avait soumis notre liberté naturelle et qu'on avait gagné une liberté civique, on a créé la loi, très bien, on est libre, on n'est plus un peuple soumis, on a nos droits naturels. Il se pose donc le problème, dans une grande démocratie, donc de la représentation et de l'activité politique. Est-ce que l'activité politique se résume à cet acte de naissance de la communauté civile, de la cité, ou est-ce que c'est dans la participation, donc toujours active, toujours renouvelée, au pacte citoyen? Et donc là, les révolutions françaises et américaines font des choix très différents sur ce qu'elles pensent donc de la représentation, sur leur conception de la représentation. Donc, soit adhérer à une représentation politique des citoyens par leurs représentants, soit au contraire, essayer de limiter le pouvoir exécutif et législatif des représentants par une participation active à la démocratie. Donc là, on a cette alternative. Les Américains, eux, ont fait le choix de la démocratie directe. Ils ont affirmé ça. Et ça, c'est parce que c'est au fondement, enfin, c'est dans leur contexte historique. Les Américains, avant de déclarer leur déclaration d'indépendance, sont une colonie. C'est des sujets britanniques, c'est des sujets libres. Ils sont censés être libres, les Américains. Le gouvernement et le Parlement britannique leur rétorquent ça, mais on vous représente au Parlement, vous êtes représentés, et au Parlement, les députés œuvrent pour le bien commun, pour la volonté générale. Ils ne représentent pas des intérêts particuliers, mais ils représentent le bien commun. Ça, c'est ce qu'on leur rétorque. Les révolutionnaires américains ont une anthropologie bien plus, bien moins naïve. Ils affirment déjà que le pouvoir corrompt et qu'à partir du moment où on détient le pouvoir, qu'on n'a pas de lien direct avec ceux qui ont transféré ce pouvoir, le représentant, qui est un homme, animé par ses intérêts personnels, va avoir tôt fait d'oublier le bien commun pour lequel il a été élu, et qu'il faut faire sans cesse des rappels démocratiques afin que ce ne soit pas oublié, que le représentant n'œuvre pas pour ses intérêts propres ou pour des intérêts, pour des lobbies. Donc les Américains ne font pas du tout confiance dans la représentation. Parce que eux, donc là, le gros problème qui se pose aux Américains, ils payent des impôts sans être représentés, sans avoir de députés américains. Et c'est ce qui rétorque au pouvoir britannique, ce slogan « pas d'impôts sans représentation au Parlement ». Ça avait mené à la Révolution anglaise, à la fin du XVIIe siècle, et l'Angleterre elle-même, dans les colonies américaines, n'appliquait pas ce principe-là, pas d'impôts sans représentation. Donc c'est au nom, les Américains dénonçaient cette contradiction dans le système même, dans le système britannique. Et donc eux, ils affirment, non, les Américains affirment, la représentation n'est pas neutre, il faut que la représentation des politiques représente des intérêts particuliers, et donc ils refusent cette idée que des représentants puissent représenter le bien commun et non pas des intérêts particuliers. Ils affirment ça. Nos représentants doivent représenter nos intérêts particuliers. Et ça, c'est une contradiction qu'on retrouve encore en France avec les députés qui sont censés représenter la souveraineté nationale en étant élus dans des circonscriptions et en étant assaillis par les personnes, enfin leurs électeurs. pour des intérêts particuliers. On est sans cesse, cette question-là de la représentation, elle est vraiment centrale dans la démocratie. Donc, pour les Américains, la meilleure défense contre cette corruption inéluctable des gouvernements, c'est de participer directement à la démocratie. Alors qu'en France, la France, dans la Révolution, va très vite va faire confiance à cette représentation. En 89, les députés de l'Assemblée constituante font un espèce de coup de force. Ils n'étaient pas du tout, ils étaient envoyés par les États généraux, ils n'étaient pas là pour représenter la volonté générale. Et donc, de faire ce coup de force, oui, nous vous représentons, nous représentons la volonté générale, même si vous ne nous y avez pas envoyé. Donc on a ce contexte historique-là. Et bien que la France se réclame de Rousseau, alors que lui est opposé à la représentation de la volonté générale, on va le voir juste après, ils sont nettement moins méfiants à l'égard donc, des mécanismes de la représentation, parce qu'ils pensent de la raison, on peut représenter le bien général, vouloir dans la volonté générale le bien de tous et pas seulement ses intérêts particuliers. Et donc là, on a vraiment l'opposition donc, entre ces deux conceptions-là, représentation politique d'un côté et démocratie directe de l'autre. Oui, donc Rousseau, dans le texte que je vous ai passé, dit clairement, sur la deuxième page, donc, que la souveraineté ne peut pas être représentée, pour la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. On ne peut pas représenter la volonté. La volonté dans un homme, elle va s'incarner s'il essaye de la représenter dans une volonté individuelle, particulière, avec ses intérêts propres. Donc Rousseau, il dit que les représentants sont seulement, j'ai oublié le terme, qui ne peuvent pas. Comment ? Oui, c'est un truc du genre, excusez-moi. Oui, voilà, ouais. Ils sont choisis pour remplir ce rôle-là, mais ils ne représentent pas la volonté générale. Donc on a ces deux choses-là. Donc. Pour finir, dans un troisième temps, on va voir que cette figure-là du citoyen que l'on a dessiné à travers donc doté de droits naturels qu'il peut découvrir par la raison, donc d'une liberté libre, la liberté et l'égalité. Donc c'est une figure très abstraite, et on peut se demander, et la citoyenne dans tout ça, ou et les Noirs et les Indiens pour dans la Révolution américaine. Et c'est vrai qu'en prenant à chaque fois les problèmes par le petit bout de la lucarne, en voyant du côté des minorités, on arrive à montrer les contradictions d'un système. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la question des femmes. Et grâce à cette question-là, quand on analyse un philosophe en se demandant qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait de la différence sexuelle, en général, de la différence des sexes, pardon, en général, son édifice se casse la figure. Et on arrive à voir les contradictions internes, les failles du système. Et c'est un exercice donc, que je vous invite tout le temps à faire. Regardez par le biais des minorités, comment on considère les minorités. Les femmes ne sont pas minoritaires, mais mises en minorité, tenues pour mineures dans les systèmes. Donc en effet, les révolutions se font au nom des droits naturels, parmi lesquels donc, l'égalité et la liberté. Des droits qui sont dits universels, donc valables pour tous, sauf pour les femmes. Donc la révolution n'a pas exclu directement les femmes. Sa Geneviève Fraisse, une philosophe et historienne, le montre. Au début, la révolution n'a pas dit « les femmes sont exclues, on ne parle que des citoyens, il n'y a que les citoyens qui sont libres et qui participent à la République ». Mais c'est une exclusion qui s'est faite dans les faits. Mais parce que cette exclusion n'a pas été affirmée, les femmes ont pu revenir sans cesse et mettre les révolutionnaires en face de leurs contradictions. Et Olympe de Gouges, une révolutionnaire qui écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Pascal nous en parlera en novembre, c'est ça ? Donc là, je l'évoque juste. Elle fait se casser la figure donc, à cet édifice des déclarations. Ouais. Effectivement, il y a dans les deux révolutions américaines et françaises une tension, des tensions vraiment palpables entre l'affirmation d'un individu abstrait, raisonnable, qui est capable de délibérer sur le bien commun en tant que citoyen, dans le silence de ses passions, nous dit Diderot dans un article de l'encyclopédie, donc dans le silence des passions et de ses intérêts personnels. Donc on a cette figure-là de l'individu, et en même temps, tout le XVIIIe siècle reconnaît donc le droit de l'individu à poursuivre son bonheur, à poursuivre son intérêt personnel, à préserver sa vie. Là, les déclarations américaines insistent sur le terme de vie. Et pourtant, c'est parce que les femmes donnent la vie qu'elles sont donc rattachées à la nature, qu'elles vont être exclues de la citoyenneté. Donc on est là vraiment en face de cette contradiction qu'on peut trouver peut-être à l'œuvre dans cette double dénomination, déclaration de l'homme et du citoyen, comme s'il n'arrivait pas à faire tenir le citoyen, la citoyenne qui agirait sur le politique en oubliant effectivement ses passions, en n'étant pas régi par son intérêt personnel, mais en voulant la chose publique, et l'homme, effectivement, toujours à la recherche de son bonheur et de la préservation de sa vie, comme si on n'arrivait pas à faire tenir les deux ensemble. Alors que tout le XVIIIe siècle a essayé de casser cette dualité. Donc, pour Descartes, donc avec le XVIIe siècle, il y a vraiment la dualité, l'âme et le corps. L'homme, c'est la chose pensante. Donc, on avait cette binarité entre l'âme et le corps. Le XVIIIe siècle, le siècle des passions, de la recherche du bonheur, de la jouissance, essayait pourtant de casser cette dualité et de reconnaître l'homme dans sa totalité. Et pourtant, quand il s'agit d'affirmer l'exclusion des femmes, on ressort cette dualité. Et c'est là qu'on voit toute cette contradiction. Et c'est vrai qu'Olympe de Gouges, ça, parce qu'elle nous en parlera, elle réécrit la déclaration.
Pas que d'elle.
Elle est dans ton titre. Réécrit cette déclaration en l'adaptant pour les femmes et en essayant de sortir donc de cette déclaration, de cette contradiction, pardon, et donc d'avoir une cohérence sur l'affirmation de l'universalité des droits naturels, en affirmant donc l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc l'article premier, la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Donc, en insistant sur cette résistance à l'oppression, qui a été l'origine des révolutions américaines, résistance à l'oppression britannique, révolution française, résistance à l'oppression royale, là, Olympe de Gouges parle de cette résistance à l'oppression des hommes qui soumettent les femmes à leur tyrannie. En regardant le problème et en réanalysant les révolutions donc du côté la différence des sexes, du côté des exclus, on voit les contradictions qu'il pouvait y avoir entre l'affirmation de droits naturels, la liberté, l'égalité, la difficulté à les mettre en place et à réaliser leur universalité. Et néanmoins, parce qu'ils ont été affirmés, ces droits-là, parce qu'ils ont été déclarés universels dans ces déclarations, les femmes, les esclaves, les noirs, les indiens pourront ensuite les utiliser, les retourner, enfin un retour à l'envoyeur pour entamer les processus d'émancipation. Ouais. Pardon. Voilà, donc c'est les points que j'avais choisis d'éclairer avec vous ce soir. On va passer au moment de l'échange. Donc s'il y a peut-être des questions sur des points que j'aurais pas bien expliqué, des confusions à éclairer, et puis après on pourra engager le débat. Oui.
Oui, je n'ai pas bien compris votre questionnement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de mode dans votre regard sur la période. J'appellerais ça de l'anachronisme.
Ouais.
En dehors de
Olympe de Gouges. Comment? Olympe de Gouges.
Qui a parlé des femmes chez les...
Ben, les révolutionnaires eux-mêmes, comme Condorcet, oui. Qui a écrit la GM. Oui, finissez votre question.
Enfin, non, ouais. C'est bien dommage, il aurait fallu citer des passages, des extraits, parce que là, bon, là apparemment, ça ne figure pas. Vous parlez des minorités, etc. On a l'impression que ce sont des mots d'aujourd'hui que vous posez sur une époque, sur 200, 300 ans en arrière. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que quand on regarde le texte, notamment Locke, si on lit ces textes-là, Locke, c'est donc le XVIIe siècle, on est assez étonné par la modernité du texte. Mais je trouve que vous allez trop loin lorsque vous parlez de l'égalité des femmes. Enfin, ce sont des visions, quand on sait que le droit de vote, c'est le XXe siècle, ça me semble anachronique. Vous en demandez trop. On a l'impression que vous reprochez à certains de ne pas y avoir pensé tout de suite. Je pense que l'époque ne s'y prêtait sûrement pas. Il faut faire attention à ça.
D'accord.
Peut-être pas, mais le texte, justement, parlant de l'universalité, a permis justement.
Ah, je dis pas,
oui, justement, le pouvoir,
enfin,
avec la mission.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit tellement basé là-dessus. Il y a d'autres rapports de force. Enfin, quand vous parlez d'émancipation, surtout en dernier, hein, quand vous parlez d'émancipation, on peut parler d'un échelle planétaire. Bon, il y a d'autres éléments qui sont rajoutés à tout ça. Sinon, les peuples se seraient émancipés tout de suite. Ça n'a pas été le cas. Au XIXe siècle, il y a eu quelques émancipations. Ça a été quand même très timide. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui se sont rajoutés dans la balance. Bon, le rejet, notamment du colonialisme, etc., etc. Mais la révolution elle-même n'a pas été suffisante. L'évocation des idées libératrices de l'individu n'ont pas été suffisantes. Il a fallu d'autres choses.
Donc, pour répondre au premier point, votre critique d'anachronisme, non, c'est absolument pas anachronique. Et là, je vous invite à lire, je mettrai ça sur le site. Il y a eu une anthologie des philosophiques. Les conceptions des philosophes de Platon jusqu'au Derrida, leur vision de la différence des sexes. Et ces questions-là, de la différence des sexes, elle n'est pas apparue récemment. C'est une question qui a travaillé les philosophes depuis que la philosophie s'est constituée comme telle dans l'Antiquité.
Certainement, quand il y a n'importe quel sujet.
Attendez, monsieur.
Donc, n'importe quel sujet, non. Mais cette pensée de la différence... et l'affirmation, la pensée de la différence a sans cesse travaillé donc les textes. Et c'est qu'il y a une démarche philosophique, intellectuelle, qui a été initiée par les féministes universitaires depuis les années 70, qui est de relire tous les phénomènes avec ce regard-là de la différence des sexes. Parce que c'était pas du tout des sujets qui étaient éludés par, que ce soit par les politiques ou par les penseurs. C'est l'histoire, c'est l'historiographie, ce qu'on a choisi de faire dire à l'histoire, c'est ça qui a éludé les questions. C'était pas des questions qui étaient éludées. La différence des sexes a toujours travaillé, cette pensée-là, a toujours travaillé les penseurs et les politiques. Aristophane, je ne sais plus quel siècle, 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, faisait prendre les femmes aux femmes le pouvoir dans une comédie pour se moquer des femmes. Donc, les femmes étaient exclues de la citoyenneté, elles étaient mères. Néanmoins, dès cette origine-là de la démocratie, la question était posée. la majorité choisissait de mettre un voile dessus, de faire comme si ça n'existe pas, comme si on n'en parlait pas. Mais les débats, et là pour revenir à la Révolution, existaient. Si Olympe de Gouges a écrit donc en 91 cette déclaration, c'est parce que les débats étaient, faisaient rage à l'Assemblée constituante. Effectivement, là, j'ai pas eu le temps de prendre les textes de Condorcet qui réclament, qui exigent l'égalité entre les sexes, qui dit que cette égalité n'est pas, cette inégalité n'est pas naturelle. Et là, il part du principe de ces droits naturels. On a tous en partage la raison des femmes est minorée du fait d'une absence d'éducation, du fait que les femmes sont reléguées à la famille, aux soins des enfants, à cette minorité politique. Cette raison n'est pas éduquée. Éduquons les femmes, créons une éducation exigeante et mixte pour les deux sexes, et à ce moment-là, les femmes pourront, de façon légitime, entrer dans la citoyenneté de plein pied. Donc, et paradoxalement, non, par ailleurs, plutôt par opposition, là vous dites que les révolutionnaires n'y pensaient pas à cette question des femmes, bien sûr que si. Et s'ils élaborent des pensées qui excluent les femmes, c'est des pensées qui sont très développées. Hein. Je pourrais faire une autre conférence sur la période moderne ou sur l'influence sur la pensée de la différence des sexes à partir de l'époque moderne. On pourra faire ça pour plus tard. Mais les révolutionnaires se trouvent en contradiction. Ils ont affirmé l'universalité des droits, l'égalité, la liberté, la raison pour tous, et en même temps, ils refusent que les citoyennes viennent à l'Assemblée. Elles peuvent regarder aux tribunes, elles n'ont pas le droit de participer. Tout le monde est censé être citoyen, mais les femmes n'ont pas le droit de se présenter ni d'élire. Donc ça, c'est une des vraies contradictions intellectuelles. Et ils contre-attaquent. Et ils contre-attaquent par une pensée, par une idéologie qui rattache la femme à la nature. Mais ils sont obligés de trouver des arguments. Et par le fait même d'être obligés de trouver des arguments pour se défendre, c'est bien parce que leur édifice intellectuel et politique était attaqué. Ils ont ressenti ce besoin de se défendre. Les textes des philosophes sont verbeux, ils nous parlent sans cesse des femmes, ils justifient sans cesse l'inégalité. Parce que, évidemment, cette contradiction vient sans cesse toquer à la porte de leurs édifices et pour leur demander de justifier. Donc ça, je pourrais faire un point là-dessus pour plus tard. Et donc là, effectivement, les révolutionnaires, je pense à Cabanis, par exemple, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, réaffirme donc la naturalité de la femme. Toute la femme est dans l'utérus. C'est ce slogan-là, qu'on trouve depuis l'Antiquité, réaffirmé par les révolutionnaires. La femme est exclue de la citoyenneté parce qu'elle est mère. Ou du moins, elle a une citoyenneté relative. Elle est citoyenne en tant qu'elle éduque vertueusement ses enfants. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le protéger, il faut protéger son ventre, il faut protéger sa matrice, parce qu'à l'intérieur de l'utérus se loge le futur citoyen. Donc c'est par ce biais-là que la femme est réintroduite et est pensée dans le système politique. Mais sans cesse, et là je vous invite à lire, hein, tout simplement, sans cesse les questions des femmes, les droits des femmes, sont évoquées par les politiciens, les philosophes, de tout le temps. Il n'y en a pas un qui évite le sujet.
Monsieur. Oui, une petite parenthèse sur Locke, puisqu'on en parle là. Locke, l'un des papes de la pensée libérale, quand même. Mm-hmm. Quand il écrit ça en 1790, en même temps, il est administrateur d'une entreprise qui se livre au commerce de l'esclavage entre l'Afrique et les États-Unis, l'Amérique. Oui. Pas l'oublier. Et quand il a été consulté pour la Constitution de Virginie, il a tenu absolument à ce que le distinguo soit fait entre les esclaves et les hommes libres. Donc c'est le genre de personne dans la pensée libérale à qui il faut poser la question qui est libre. Et pour eux c'est clair, c'est pas tout le monde. Alors c'est pas les femmes, mais c'est pas non plus les domestiques, c'est pas les noirs. Alors pour ceux qui sont intéressés, Jennifer Pitts, une Américaine, pays de ETS, j'ai oublié le nom, le libéralisme et la pensée coloniale, et essentiellement axé sur la France, mais c'est très très bien fait. Moi, je veux revenir surtout sur la partie du système représentatif et puis de la souveraineté générale. Donc, vous avez dit que les Américains avaient émis une certaine méfiance vis-à-vis de la représentation et que les Français avaient au contraire eu confiance dans la représentation. Oui. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas que les Français avaient confiance dans la représentation qu'ils ont élaboré une théorie du peuple de la souveraineté nationale.
c'est qu'il voulait à toute force éviter la démocratie. C'est-à-dire éviter que les gens exercent eux-mêmes la souveraineté nationale. Parce que la question s'est posée. Où réside la souveraineté nationale? Dans le peuple. Ça faisait relativement consensus. Comment s'exerce-t-elle? Alors il ne faut surtout pas que ce soit les gens de rien. Alors, les gens de rien, c'était ceux qui n'avaient pas suffisamment de fortune.
Qui ne sont pas propriétaires.
Ceux qui n'ont pas de savoir, ceux qui n'ont pas de biens, il ne faudrait surtout pas qu'ils se mêlent des choses des propriétaires qui assez mouillés à cette phrase absolument colossale, et je vous la donne. La souveraineté appartient au peuple, mais il importe à sa félicité qu'il ne l'exerce à point. Alors, moi je me suis plongé un petit peu dans les archives parlementaires de l'époque, de la Constituante, etc. Ça apparaît, c'est net. Pour ceux qui voudraient avoir des références, prenez les bouquins de Pierre Rosanvallon, par exemple, il en parle en tant qu'historien, pas en tant que projection sur la nouvelle démocratie. Lucien Jaume, qui est prof à Sciences Po, il a fait des bouquins qui s'appellent La démocratie et la pensée jacobine, quelque chose comme ça. Bernard Manin, qui a travaillé sur le système représentatif, c'est clair comme de l'eau de roche. Si on a un système de représentatif, c'est pour éviter que tout un chacun s'intéresse aux affaires publiques. Je vous dis, hein, soit sur des critères de savoir, soit sur des critères de fortune.
Oui.
Ah oui, ça.
Effectivement, 3 millions de citoyens dits passifs ont été exclus en 1791. Pour chasser ce risque de la démocratie, de l'accès de tous à l'exercice de la démocratie, effectivement, les révolutionnaires de la Constituante ont établi cette distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs. Et les citoyens actifs, c'était ceux qui étaient propriétaires. Et vu qu'ils avaient quelque chose à se soucier, ils étaient pris dans un intérêt particulier de la propriété, et donc ils étaient responsables s'ils étaient propriétaires. C'est par ce biais-là qu'a été établie leur exclusion. Ouais.
Juste une chose, vous avez parlé de Condorcet. Condorcet, il y a eu des débats pour la Constitution en France. Il y avait Condorcet en particulier, qui a mal fini, qui avait pondu une Constitution, je vous invite à la lire. Ses œuvres complètes sont publiées par les héritiers. Il avait prévu une Constitution dans laquelle chacun, je dis bien chacun de nous, ici dans cette salle, pouvait être à l'origine d'une loi. Il avait monté un système dans lequel on pouvait débattre en assemblée primaire. Et s'il y avait consensus ou majorité au sein de l'Assemblée primaire sur un sujet, ça pouvait être à ce moment-là de droit, élaboré, enfin rediscuté à un niveau plus haut, au niveau national. Elle est prodigieuse, cette. Et d'ailleurs, certains considèrent que Condorcet est le père de la démocratie directe.
Excuse-moi, je pose une question par rapport à la volonté générale.
Oui.
J'aimerais bien que vous reveniez sur ce concept. Parce que je ne l'ai pas bien compris, ça me semble quand même extrêmement intéressant et j'aimerais vraiment bien le saisir.
Je ne
comprends pas bien le
oui.
concept.
D'accord. Je regarde juste si j'avais fait la photocopie. Donc, au concept de Rousseau, dans le contrat social, donc où, au moment où il s'interroge sur le fondement du pacte de la cité. Donc on sort de l'état de nature, dans l'état de nature, où on a une liberté absolue. Pour Rousseau, dans cet état de nature-là, on vivait heureux. Ensuite, la rencontre entre les hommes, il imagine donc le discours sur l'inégalité. Il imagine donc l'homme au début vive relativement seul. Il se rend compte, commence à former une société. Les rivalités existent, la comparaison, l'envie. Donc tout ça fait que cet état naturel n'est plus vivable. Il décide donc de fonder un pacte d'entrée en société. Et donc pour entrer en société, il faut renoncer à notre liberté absolue qu'on avait dans l'état de nature. Donc on renonce à cette. Chaque individu donc, se trouve nu, a renoncé à tous ses droits, s'est aliéné totalement. Pour si chacun aliène tous ses droits, il y aura une parfaite égalité, et chacun pourra recevoir de tous dans cette union, dans ce corps politique, de nouveaux droits bien plus puissants. Parce qu'en plus de la puissance individuelle qu'il avait, qui était très limitée vu qu'on était en concurrence, il va recevoir donc la puissance de tous pour vivre librement. Certes, il a renoncé à cette liberté naturelle, mais il gagne la liberté civique, la liberté de la vie en société. Et donc, la volonté générale, c'est la volonté du peuple, de ce corps politique. La métaphore là, biologique, organique du corps est importante. Les individus, les espèces de monades, donc, entrent dans ce corps politique et forment une unité. Et dans un corps, il y a une volonté. Il y a cette unité-là. Et la volonté générale, ça va être la volonté de ce peuple, donc cet ensemble des individus qui sont unis, et une volonté rationnelle, pour peu qu'ils délibèrent donc rationnellement, calmement, ils pourront découvrir le bien commun, et ils voudront forcément, nécessairement, ce bien commun. Donc, en fait, c'est ça la volonté générale, la volonté de tous, de vivre ensemble et de rechercher donc le bonheur commun, un bonheur donc rationnel, et qui ne représente pas la somme des intérêts particuliers. On a renoncé à nos satisfactions de nos intérêts particuliers, et on recherche, une fois qu'on est dans ce corps politique, le bonheur commun dans une participation en tant que citoyen, une participation active à la citoyenneté.
Ce que j'ai pas bien compris, c'est donc lorsque vous dites par rapport à la volonté générale, ce n'est pas le 50 plus 1, quoi. C'est ça que j'ai pas bien compris, parce que comment est-ce qu'elle s'exprime alors pour Rousseau, cette volonté générale?
Donc dans le 50 plus 1, disons qu'il l'oppose à la volonté de tous, il oppose ces deux concepts, volonté de tous contre volonté générale. La volonté de tous serait chacun, on se réunit, on a des volontés individuelles, on est mu par notre intérêt propre et on veut telle chose, telle chose, telle chose. La majorité va l'emporter. C'est la majorité. Alors que la volonté générale, elle est basée sur cette pensée-là, que si on réfléchit tous ensemble au bien commun, on va décider, des différences vont apparaître, mais ce sera pas des différences mues par notre intérêt personnel, mais... comment
ces différences seront acceptées dans l'ensemble.
Et surtout, il y avait un texte précis, mais où il y avait cette nuance conceptuelle, mais j'arrive plus à l'avoir en tête. On veut pas la même chose. On veut pas notre intérêt, mais en réfléchissant rationnellement, on va vouloir le bien commun. Ouais. L'intérêt général, ouais. Et ce ne sera pas la somme de nos intérêts privés, ce n'est pas du lobbyisme.
Et quelle méthode, alors, est-ce qu'il le préconise par rapport à ça?
Quelle méthode?
Vous y arrivez à l'expression de cette volonté générale. On fait comment?
On délibère. Donc ça, c'est des grands concepts. Et dans une délibération, dans une réflexion tenue en raison, en consultant notre raison universelle que chacun de nous possède, quand on réfléchit, on va le trouver.
C'est quand même très utopique. Mais c'est pas seulement très utopique, mais ça rapproche beaucoup de certains courants religieux où il fallait s'oublier pour le bien de la communauté, de tout. C'était quand même très copié, et on sentait quand même, il y a quand même une grosse influence religieuse quand même, parce que c'est. À l'époque, quand les gens tous crevaient faim, on disait qu'il faut tous se réunir, il faut oublier ces différences, et puis c'est ce qui était prôné par la religion. Je ne sais pas si c'est suite à la séparation des deux, est-ce qu'ils ont essayé de reproduire ça, mais c'est quand même très connoté.
Peut-être, mais après, dans la religion, on va gagner un salut éternel dans un autre monde. Là, en faisant ça, on gagne notre liberté politique. Et avec cette idée aussi, cet appel vers les Grecs, et cette conception de la liberté politique, on trouve notre bonheur, on est des animaux politiques, on va trouver notre bonheur et notre vocation naturelle dans l'exercice de ce pouvoir en commun. Il y a aussi cette conception-là très positive de la liberté. Après, est-ce que nous, on préfère... Effectivement, quand on choisit la représentation, là, il y a des textes de Sieyès qui dit... Pardon, Sieyès.
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 L'abbé Sieyès.
Que On doit donc utiliser la représentation politique pour pouvoir poursuivre notre liberté personnelle, individuelle, et que notre vie d'homme sera réussie si on peut poursuivre nos buts individuels. Après, comment on se définit à chacun de choisir. Je pense qu'il peut y avoir des compromis. Enfin, à nous de bidouiller, de savoir quelle liberté on préfère.
Oui, en partant bien et en comprenant bien sur cette période-là, on sort d'un autre régime. L'ancien régime, c'est un régime qui interdit toute possibilité à une personne, du moment qu'elle n'est pas un homme ou du moment qu'elle n'est pas représentante du clergé, d'avoir voix au chapitre, d'exprimer quelque chose. Et la seule chose qu'on explique aux êtres humains, c'est de dire « Dieu, la religion, vous promet un monde meilleur demain, et sur Terre, vous n'êtes là que pour souffrir. » C'est un résumé, mais toute la philosophie des Lumières dit « Nous contestons ce présupposé qui est de considérer qu'on est là pour satisfaire autre chose et ne pas nous-mêmes avoir une capacité à déterminer ce que va être notre vie, individuelle et collective. Individuelle dans le sens où je peux faire et je souhaite faire ce que je veux. C'est toutes les luttes contre les serfs et toute la fin de l'esclavage, n'ira pas jusqu'au bout, même si dans la Révolution, il y a eu des allées et des retours, puisque dans la Révolution, dans un premier temps, il y a l'abolition de l'esclavage, il ne faut jamais l'oublier, qu'il y a dans tous les territoires qu'on peut appeler domiens aujourd'hui, des révolutionnaires noirs qui, comme Victor Schœlcher, se servent des revendications d'émancipation pour exiger la liberté et vont...
Toussaint Louverture,
je suis fatiguée. Oui, merci.
C'est l'auteur de la loi.
Voilà, c'est le suivant. C'est Toussaint Louverture le premier, mais il y en a à peu près une cinquantaine de conventionnels qui, issus des dom-toms, vont revendiquer l'égalité. Donc, il faut bien comprendre que cette philosophie de la capacité à pouvoir décider soi-même de sa propre vie et ensuite de la vie en collectivité, qu'est-ce qu'on fait et de quoi on dépend, c'est en réaction avec un régime ancien qui considère que il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas de possibilité autre que de se soumettre à une loi dite divine.
Je pense quand même qu'il faut voir que dans les villes, la bourgeoisie existait et qu'il y avait justement la noblesse de Rome, il y avait des avocats, des juges
qui avaient des chercheurs,
non seulement ça, mais qui géraient.
Le tiers d'État,
non, moi aussi. Qu'est-ce que le tiers d'État? C'est Sieyès qui disait qu'est-ce que le tiers d'État? Rien, qu'est-ce qu'il doit être? Tout.
Tout.
Et c'est ceux-là qui ont voulu le pouvoir.
Ils sont à peine. Oui,
il
est
donc, non, mais il a survécu à la Révolution.
Le tiers d'État n'est pas parti de rien. La Révolution française n'est pas partie de rien. Elle est partie de la bourgeoisie.
Félinov appelait les sans-titres de noblesse, les snobs, signés de l'ouvrier.
Oui, pas seulement, il y avait aussi des nobles, hein, faut jamais l'oublier.
C'est rigolo.
Il y a eu aussi des mouvements, il ne faut pas oublier les contradictions dans la société française de l'époque. Il y a la bourgeoisie des villes, mais il y a aussi la noblesse rurale pauvre. Hein, par exemple, les Bretons, les Girondins, pour beaucoup de conventionnels qui vont se retrouver élus, beaucoup ont souvent une particule. Pas beaucoup de richesses, mais revendiquent et participent aussi du courant des Lumières.
Oui,
mais parce qu'ils étaient instruits, ce que rappellera Condorcet.
La particule, c'est facile, parce qu'en effet, c'est pas ça. C'est pas ça qui faisait la hiérarchie sociale.
Tout à fait.
Je pense qu'il y avait des bourgeois qui avaient plus de richesse que certains nobles.
Et les nobles pouvaient épouser des bourgeoises également.
Voilà. Et le roi avait le pouvoir de transformer des bourgeoises en nobles.
La question que je n'ai pas réussi à fouiller jusqu'à présent par manque de temps, c'est celle de la citoyenneté. Parce qu'en fait, il y a deux courants. Il y a un courant libéral, donc avec Locke, par exemple, donc tête de file, et puis il y a le courant républicain qui viendra après et qui sera actif essentiellement avec la Révolution française. J'ai ouï dire qu'en fait, la citoyenneté était totalement ignorée par les penseurs libéraux. Qu'en revanche, elle avait été prise en charge par les penseurs dits républicains, enfin, qu'on range dans le camp républicain. Je ne sais pas si vous, si de votre côté, vous avez travaillé cet aspect-là, si vous avez quelque chose à commentaire à faire. Parce que de fait, c'est, bon, j'ai pas tout lu de libéraux, enfin, j'ai lu de gouvernement, c'est vrai que si, la citoyenneté, elle apparaît quasiment pas dans les textes des penseurs libéraux. Il faut attendre un Rousseau, par exemple, qui s'est plongé dans l'Antiquité, qui a voulu, pour voir apparaître ce terme-là et une élaboration un peu. Mais, et encore actuellement, ceux qui sont libéraux actuellement, ce qu'ils veulent, c'est justement virer la démocratie et virer la citoyenneté. On le voit bien, hein, avec l'OMC, le FMI, l'Union européenne, enfin bon, ça me paraît clair. Donc il y a une filiation là. Mais j'arrive pas à savoir à quel moment la notion de citoyenneté a été créée.
Moi, je suis incapable de répondre à la question.
On en parlera dans les semaines qui viennent.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'idée du bonheur qui m'a toujours frappé.
Ben, écoutez, je rejoins ce que vous avez dit, parce qu'il me semble que la révolution, on l'a approchée, hein.
Oui,
il me semble que la révolution procède énormément sur cette question, je pense, qui est centrale, jusqu'à la révolution, donc c'est l'Église qui gère les consciences, hein, si on veut, et ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Et je crois que naît une question qui est tout à fait nouvelle, hein, au cours du XVIIe siècle, hein, c'est, mais... Il y a le salut, oui, et le bonheur. Et je crois que ça a touché toutes les couches de la société, jusqu'au roi lui-même. Les gens ont commencé à se poser cette question, on est sur Terre, mais est-ce qu'on ne peut pas être heureux? Et qu'est-ce que le bonheur? Ils ont essayé de se redéfinir par rapport à ça. Certains ont eu pour réponse, ben, on ne va pas attendre d'être mort, on va essayer d'avoir le bonheur tout de suite.
C'est les débuts des droits individuels.
Oui, madame. Vous la phrase de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est une pensée tout à fait moderne, c'est extraordinaire.
Oui, il y a
une idée neuve en Europe,
vous vous rendez compte.
Le bonheur.
Pour les philosophes de.
L'individualisme étant.
Saint-Just, c'est
une. Donc, le bonheur, effectivement, donc bonheur, idée neuve, là, dans les textes que je vous ai passés, effectivement, c'est un des buts de nos contrats, un des buts de l'État, assurer notre bonheur, en tout cas permettre notre bonheur individuel. Au XVIIIe siècle, donc, on peut parler, il y a les Lumières et les Lumières radicales. Il y a le contexte, c'est quand même encore la présence évidemment de la chrétienté, de la censure. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc le bonheur qui a été analysé par Mozi, par le critique littéraire Mozi, dans son livre sur le bonheur, c'est pas la licence, c'est pas la jouissance absolue. Les penseurs du bonheur ont peur de passer pour de vilains athées. Certains le sont, pas tous. Ils ne veulent pas passer pour des épicuriens. Avec une compréhension qui n'est pas forcément bonne de l'épicurisme, mais en gros, ce serait des pourceaux. On jouerait, on serait dans les sens, l'exaltation des sens. Donc, certains vont travailler ce bonheur-là sensuel, mais il y a parfois une représentation très moraliste du bonheur, parce que ceux qui défendent ces idées-là ne peuvent pas être accusés, doivent montrer qu'ils sont encore plus moraux que les chrétiens, sinon ils seraient accusés. Donc le bonheur, c'est un bonheur vertueux. Le siècle, ça va être le bonheur, il va être dans un entre-deux. Par exemple, le bonheur pour Épicure, c'était l'ataraxie, le calme des passions. Donc c'est pas ça le bonheur au XVIIIe siècle, parce que le XVIIIe siècle a peur de s'ennuyer. Il veut du divertissement, travailler, enfin, le plaisir des sens, mais ce n'est pas non plus une jouissance effrénée. Donc, dans l'idée généraliste du bonheur, hein, l'idée qui va être développée dans beaucoup, beaucoup d'écrits, ça va être, le bonheur va tenir cet entre-deux, le calme de la conscience, parce qu'il ne faut pas s'entacher moralement, et quand même les plaisirs. Ça ne va pas être les jouissances, mais ça va être les plaisirs, la recherche des plaisirs, et ce travail-là sur les plaisirs de l'esprit et du corps. Il y a monsieur avait.
Oui, moi je pense que ce que vous avez dit, c'est un bon merci, c'est la première fois que je ne connaissais pas. Et ça permet d'introduire une discussion très intéressante. Donc par rapport à ce que vous avez dit, je crois que tous ces philosophes représentent quand même la bourgeoisie montante. Et qu'en ce sens, comme les intérêts de la bourgeoisie sont contradictoires, on trouve, c'est un certain nombre d'intérêts ou d'expressions qui pouvaient s'exprimer à travers ce qu'ils pouvaient exprimer. Il est vrai que de ce point de vue-là, il fallait abattre l'ancien régime, le bon régime monarchique. Et de ce point de vue-là, bon, tout ce qu'il pouvait décrire, c'était extrêmement intéressant. Et si on peut aller le plus loin, du point de vue de la religion, du point de vue de l'évolution de la société humaine, Monseigneur Gracchus Babeuf, avec la conspiration des égaux, où effectivement, lui, voulait réaliser précisément le bonheur, tout ce qu'il faut. Dire, et y compris l'égalité des femmes et des choses là, et en ce sens, bon, je vais très bien dénommer comme premier communiste. Mais la question du bonheur, je pense pas que ce soit une question en soi. Si on prend au moment de la Révolution française, d'un côté, il y avait quand même des riches, il y avait des bourgeois, et puis il y avait des salariés, il y avait des ouvriers de manufacture. Vraisemblablement, la conception du bonheur pour un propriétaire de manufacture n'était certainement pas la même que celle d'un salarié. Et donc la question du bonheur se rapporte à la classe sociale à laquelle elle appartient, forcément. Et en ce soir, on peut discuter philosophiquement d'un certain nombre de choses, c'est vrai, mais à quelle classe sociale on appartient, concrètement. Et il est clair qu'à partir du moment où on n'a pas les mêmes intérêts, on n'aura certainement pas les mêmes idées.
Oui.
Et... de ce point de vue-là, et c'est vrai, et de cette situation, dans la situation actuelle, il est vrai que tous les acquis de la Révolution française sont totalement remis en cause. Que ce soit les expressions de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, tout ça, et que nous, on doit, je pense, œuvrer justement pour restituer toutes ces choses-là, mais sur le plan philosophique, philosophiquement parlant, quand on discute des intérêts des idées, les intérêts des idées expriment toujours plus ou moins, de façon plus ou moins masquée, des intérêts matériels. Et Locke exprimait des intérêts matériels, pour Rousseau pareil, quand Rousseau dit. La volonté générale, c'est quoi? Pour un patron, la volonté générale, pour un employeur des manufactures, la volonté générale, c'est de pouvoir exploiter au maximum ses ouvriers, qu'il avait à cette époque-là, mais pour les ouvriers de l'époque ou pour les femmes qui criaient le punch, hein, qui ont ramené le petit mitron à Versailles, hein, et tout ça, le bonheur pour les femmes, c'était pas du tout la même chose que ce que voulait dire l'emploi. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est
un. Donc là, effectivement, là, vous critiquez l'individu abstrait.
Là, oui, sociologiquement.
Sociologiquement, oui. Donc là, c'est vrai que j'ai pas fait. Là, j'ai pris des philosophes.
Pas les plus révolutionnaires. Hein. Effectivement, ceux qui. Il y a quand même l'affirmation ces droits naturels sont dits universels. Comme si on pouvait, comme en philosophie, dessiner la figure de l'homme, de l'essence de l'homme. L'homme sait ceci. C'est une définition. Là, c'est aussi une croyance philosophique à l'œuvre au XVIIIe siècle qui sera remise en cause à la fin du XIXe siècle par Nietzsche en disant que, effectivement, l'homme comme tel n'existe pas. Cet individu abstrait n'existe pas. On est remué et on veut et on pense par nos tripes, par ce qu'on a dans le ventre. Mais dans cette période-là de l'histoire, il y a cette croyance, ce postulat de l'individu, de cet être abstrait qu'on pourrait définir. Effectivement, qu'on peut critiquer, comme vous le faites par le biais immatériellement, d'où est-ce que vous parlez, quelle est votre position qui va vous faire penser que, par ce genre de questions, on remet en cause l'édifice, mais il y a, là, moi, je suis partie de cette croyance commune qu'il y avait.
Monsieur, comme vous avez dit, vous avez évoqué la recherche des plaisirs et des sens, donc ce serait de cette manière-là que s'exprimerait le bonheur. Mais ça s'est fait de toute façon, ça s'est fait dans les autres classes. On a qu'à se souvenir, le libertinage c'est quoi? C'est ça, c'est la recherche des plaisirs. Ça a été vrai pour une certaine classe, enfin la noblesse, on peut se rappeler du régent de 1715. Donc tout au long du siècle, les hautes couches de la société ont fait ceci. Mais les révolutionnaires ont apporté une autre réponse à ça. C'était plus la recherche du plaisir. Ils ont tout simplement dit, le bonheur, c'est la liberté. C'est tout simple. Mais ça ne va pas, ça ne contredit pas ce que dit monsieur, parce que ce que dit monsieur est vrai, et ça me fait penser d'ailleurs que le matérialisme et tout ce qui s'ensuit, les idéologies qui en découlent, sont certainement nées à ce moment-là.
Donc là, pour cette question-là, je vous renvoie seulement au tome, je crois, 4 de l'histoire de la contre-philosophie de Michel Onfray, qui parle donc de ces lumières radicales de ces matérialistes. Là, j'avais choisi aujourd'hui de ne pas les évoquer, mais effectivement, c'est présent dans tout ce XVIIIe siècle. Bon, moi, je ne les ai pas choisis ici, parce que ce n'est pas forcément eux qui ont gagné les révolutions, et qu'à la base, j'étais censée parler des révolutions telles qu'elles ont été, et que ce n'est pas ces pensées les plus radicales qui ont gagné, tout simplement. Donc c'est pour ça que je m'étais tenue au sujet, et je n'avais pas évoqué des choses qui sont plus rigolotes. Et bon, on peut bouquiner, on ferait. Voilà.
Oui, pour compléter sur ce point-là, moi j'ai plutôt une formation d'historienne, hein, sur la partie de la Révolution. Les débats, si on prend le temps d'aller les lire, on voit bien que les courants philosophiques, bon, qui aboutissent après à un certain nombre d'éléments qui ont été mis en avant, sont d'abord des grands enjeux de débat à l'intérieur de l'Assemblée, hein, de la Constituante. On va prendre deux exemples. La propriété, puisque vous en parliez tout à l'heure, il y a eu un gros débat avec un certain nombre de conventionnels qui ont dit on est capable de définir des limites de la liberté individuelle, hein, c'est la liberté individuelle s'arrête là où commence celle d'autrui, hein, qui est une formule qui est sous une autre forme utilisée, et certains disent il faut définir des limites à la propriété. Il y a un grand débat, il y a 4 jours de débat à la Constituante pour savoir si on va en définir. Et effectivement, à l'arrivée, on n'en définit pas. Et on ne définit pas de limite à la propriété parce que, après, les éléments de ceux qui portent ce débat, hein, qui sont plutôt des hommes, des bourgeois et des gens qui ont à l'époque quelque chose à défendre, considèrent qu'il n'y a pas de limite à la propriété, que c'est un droit inaliénable. De la même manière, alors là on voit, j'ai envie de dire un échec, mais de la même manière historiquement, quand on voit le débat sur la liberté de penser. Hein, c'est l'article 10 et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Là, il y a eu aussi un débat pour savoir si on mettait la reconnaissance du droit d'avoir une autre religion que la religion dominante, qui était la religion catholique. C'était le rétablissement de l'édit de tolérance, hein, qui avait été un édit avant l'édit de Nantes. Ou est-ce qu'on définissait la liberté de penser ? Pendant 3 jours, l'Assemblée, il y a un débat. Et certains disent, on ne peut pas rétablir simplement la tolérance parce que c'est le poids du plus fort de laisser ou non la liberté à quelqu'un qui est plus faible de penser différemment. Or, aucune pensée ne doit avoir une inégalité par rapport à une autre. Aucune pensée ne doit être soumise au desiderata d'une pensée dominante. Et donc, à partir de là, dans ce débat-là, par contre, c'est les tenants, j'allais dire, de l'égalité pour tous, la liberté de conscience, la liberté de penser sans hiérarchie qui l'emporte. Donc l'histoire de la Révolution française, elle est à ces moments-là dans des textes. Des fois, j'ai envie de dire pour nous, hein, vu de notre fenêtre aujourd'hui, on dit ben oui, là ils ont eu raison, et sur d'autres points, hein, ben ils n'ont pas obtenu, sans doute parce qu'il y a aussi des éléments de prise de conscience, de mobilisation qui font que sur certains points, il n'y a pas l'aboutissement tel que n'importe qui pourrait aujourd'hui consciemment l'espérer.
C'est pour ça que Robespierre invente l'être suprême, finalement. Mm-hmm. C'est une solution.
C'est compliqué.
Parce qu'on parlait du bonheur, mais c'est quand même très rigolo, parce qu'avant avant la Révolution française, il y avait le bonheur éternel qui était réservé à l'élite, donc la noblesse, les gens du clergé, de facto, mais les autres qui étaient effectivement attachés à la terre, les serfs, les fêlés, tout ça, ils n'avaient pas droit à ça.
Si, mais ils iraient peut-être au paradis après.
Oui, non, mais ça, voilà, mais c'était, eux, ils étaient censurés.
C'est pour ça qu'on a
l'église
au paradis après.
Mais ce qui était promis par rapport au niveau du paradis, si vous voulez, par rapport à la religion, c'est dans ce sens-là, je disais. Bon, après, au niveau de la révolution, c'est dire, ben, finalement, vous êtes tous égaux, vous avez votre bonheur, c'est déjà d'être libre, comme vous disiez tout à l'heure, de pouvoir accès aussi à l'instruction et de pouvoir aussi bénéficier des fruits maintenant de votre travail. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a des tas de choses qui ont quand même dérivé. Donc après, il y a eu effectivement l'être suprême, donc on rejoint un petit peu ce qu'on a combattu. Et il y a des gens qui sont sentis quand même laissés pour compte à partir de 1793 en disant finalement ceux qui étaient là pour soi-disant défendre nos intérêts, et c'est ce qu'ils ont appelé les ventres dorés, les ventres pourris. Et ça s'est très mal terminé pour les mêmes personnes.
Je reviens à ce que vous avez dit, parce que je veux toujours bien comprendre cette notion de volonté générale. Je ne connaissais pas, mais je ne connaissais pas, ça m'intéresse. Vous avez dit, dans la notion de peuple, au moment de la Révolution, j'ai noté la phrase 1, il s'agit de la volonté générale qui ne peut vouloir que le bien commun. Mais c'est ça le peuple tel qu'il le définit ?
C'est tel que Rousseau le
définit. Pour Rousseau, oui, effectivement.
Non, mais je veux dire que lorsqu'on trouve dans un texte de la Révolution le mot peuple, est-ce qu'il y a ça derrière ? Je veux dire, est-ce que les personnes qui écrivent ça, est-ce qu'elles ont ce schéma là de penser en tête, ou c'est encore autre chose qu'elles nous expriment ?
Un Condorcet, oui.
Alors après, c'est terrible. Là, j'ai travaillé un tout petit peu sur la Révolution. Je pense que monsieur connaît bien plus de choses que moi. Je regardais notamment le dictionnaire critique de la Révolution française qui était sorti en 1789. Et vous pouvez le consulter. Il est vraiment très, très bien fait par les différentes entrées.
Il y en a eu deux. Hein. Il y a eu celui de Furet et de Zouffre.
Oui, je parle de...
Il y en a eu un autre, dont j'ai oublié les auteurs.
Je parle de celui-ci.
La référence,
c'est... Là, il y en a un premier qui n'était pas celui de Zouffre.
Donc là,
Furet, où il y a Marcel Borini qui...
D'accord. J'ai juste regardé celui-ci. Et si on regarde l'entrée peuple... Je ne me souviens plus si elle y est. Mais à chaque entrée, il y a les différentes périodes de la Révolution. Et comme disait Pascal, les différents courants qui vont s'opposer à l'intérieur des différentes périodes de la Révolution. Donc, est-ce que les révolutionnaires ont en tête la définition du peuple de Rousseau ? Je peux pas l'affirmer. C'était une définition qui me paraissait importante. En tout cas, ils se sont réclamés de Rousseau. Ils l'ont panthéonisé. Ils ont fait... tout un tas de bruit sur Rousseau. Il est énormément dans l'iconographie. Les députés se réclament de Rousseau. Il revient sans cesse. Pas que, il y a aussi des ennemis. Mais en tout cas, il y a cette pensée-là et le contrat social qui va baigner. Est-ce que c'est cette définition-là du peuple comme voulant le bien commun ?
C'est intéressant en fait, de relire les textes qu'il y a à l'époque. Si, je veux dire, parce que le mot peuple, il y est en permanence.
Au nom du peuple français.
Si, je veux dire, c'est au nom de la volonté générale qui peut vouloir que le bien commun, ça offre une autre lecture lorsqu'on relit. C'est pour ça que je pose la question.
Oui.
J'aurais tendance à dire que oui, c'est le peuple, donc ce serait la volonté générale et qui veut ce bien, oui, qui veut le bien commun.
Hein. C'est pas donc une majorité.
Non.
D'accord.
Et est-ce qu'il y avait une notion de personne ? Est-ce qu'il y avait une notion de personne ? C'est-à-dire, quand vous parlez de peuple, est-ce que la personne en elle-même était envisagée par le...
Donc l'individu parti.
La personne.
Plus que la
personne.
Alors.
Parce que justement, par rapport aux différences sociales, aux différentes classes sociales, je pense qu'une partie est-ce qu'ils étaient considérés comme des personnes à partir de justement de ces...
En 89, oui. En 89, c'est après.
Est-ce que ça a été...
Historiquement, sur la période 89-93, oui. Après, on a des reculs qui sont définis par la limitation. On ne peut voter que si on est propriétaire, etc. Et parce qu'il y a un gros débat sur la différence entre l'égalité civique et l'égalité civile. Hein? Donc, on reconnaît à chaque individu, le droit de penser, de s'organiser, etc., etc. Mais les droits civiques qui sont adossés, eux, vont être limités et interdits à un certain nombre en fonction de la couleur, du sexe ou du fait qu'il n'est pas propriétaire.
Hein. Je ne voulais pas par rapport au droit, moi je voulais par rapport à la perception. C'est-à-dire dans tous ces textes de ces philosophes, est-ce qu'il y a une perception de considérer, par exemple, certaines classes constituées par des personnes, c'est-à-dire des gens ayant des pensées.
Alors, je ne sais pas si je vais répondre à côté, mais parce que tous ces penseurs-là, et Locke en particulier, travaillent sur l'identité personnelle. Et cette identité personnelle, on a parlé du matérialisme, c'est effectivement, on n'est pas des... Là, je parlais des êtres abstraits sur le plan politique, mais on n'est pas des êtres abstraits. Le 17e et le 18e vont essayer de s'interroger quelles sont l'origine de nos idées. Est-ce qu'elles sont innées? Est-ce que c'est Dieu qui est notre créateur qui nous aurait donné nos idées? Ou au contraire, sont-elles construites par l'expérience? Et Locke, notamment, va penser cette construction de toutes nos connaissances et de nos idées par le biais des sentiments, de l'expérience. Donc là, ça fait référence à l'individu vraiment concret. Donc étudier l'instruction, oui, mais avant tout, les sens, on apprend par nos sens, donc par ce qui est le plus matériel en nous. Donc cette pensée-là de la personne, de l'identité personnelle qui se construit son identité en faisant des expériences, en vivant, elle est présente dans tout le siècle. Donc je ne sais pas si c'était... Donc après là, je suis floue c'est parce que...
On pouvait considérer que ça s'appliquait absolument à tout le monde. C'est ça.
Alors, il n'y a pas une pensée sociologique au XVIIIe siècle. Non, mais c'est... Est-ce que... Mais donc la révolution, c'est au sens abstrait, c'est aussi de penser qu'on est égaux. Donc c'est vrai qu'ils vont s'attacher à ne plus définir les individus en fonction de leur appartenance à l'État, la noblesse, le tiers état ou les curés. Je perds mes mots.
Le clergé. On va prendre le clergé en général.
Pour sortir de cette différenciation qui crée une hiérarchie sociale, ils ont besoin aussi de postuler l'universalité. C'est ce concept-là que nous, aujourd'hui, on trouve ne tenant pas suffisamment en compte la réalité concrète et mouvante, c'était un concept de combat contre les hiérarchies. Mais la personne n'était pas oubliée par le biais du sens et de la pensée matérialiste qui se développe à cette époque.